Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La cigarette tue tout doucement, 250 milliards de morts par an. Cette maladie si célèbre et merdique qu'est aussi un crabe astrologique.
La curiosité est un vilain défaut.
La cigarette, non seulement ça tue, mais ça coûte cher et puis ça pue. La nicotine te colle aux doigts, tes cheveux sentent le cendrier pendant des mois.
Jusqu'à 22h, RTL.
Fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur des conseils de médecine. Lui dans Poumon Magazine.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Imaginez, plus de 6000 paquets de cigarettes sont vendus par seconde dans le monde. Alors plus ils encrassent les poumons des consommateurs, plus les géants du tabac se frottent les mains. Mais sont-ils infaillibles? Alors que la lutte contre le tabac fait rage dans le monde occidental, comment résistent-ils? Comment manipulent-ils les pouvoirs publics, les buralistes pour vendre toujours plus? Notre invité a enquêté. Bonsoir Marc Lomadi.
Bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Parisien Magazine et rédacteur en chef adjoint du Parisien. Combien de multinationales se partagent le marché de la cigarette aujourd'hui?
Ah, c'est très simple, il y en a quatre qui se partagent le marché mondial et donc le marché français. La plus connue, c'est évidemment Marlboro, Philip Morris.
Donc les Américains?
Ce sont des Américains. British American Tobacco, qui est une boîte américano-anglaise. Lex Saïta, qui a été racheté par des Anglais également. Et puis il y a Japan Tobacco, qui est japonais. Donc voilà, quatre multinationales qui se partagent 99% du marché français et 90% du marché mondial.
On les appelle les Big Four, les grands quatre, traduction littérale. Ils sont implantés dans combien de pays?
Dans quasiment tous les pays, 180 pays à peu près, évidemment dans les pays développés et aujourd'hui de plus en plus dans les pays en voie de développement. C'est leur nouveau marché, c'est leur nouvelle frontière.
Parce qu'on peut faire de la publicité?
Parce qu'on peut faire de la publicité, parce que ce sont des marchés qui s'ouvrent. La Chine, par exemple, est un marché qui s'ouvre. Marlboro vient d'avoir l'autorisation de vendre ses fameux paquets en Chine, ce qui était interdit auparavant. Donc voilà, ils conquièrent le monde parce qu'ils ont bien compris qu'en Europe occidentale, les impératifs de santé, le prix aussi des cigarettes, tout ça fait que les pays comme la France, l'Angleterre, l'Australie, dont on parle beaucoup aujourd'hui, sont des pays où on fume de moins en moins. Et donc, ils se replient vers l'Afrique et vers l'Asie.
Marc Lomadi, vous êtes rédacteur en chef au Parisien. Vous avez travaillé pendant de longs mois pour enquêter sur ces Big Four, ces quatre géants du tabac qui dominent le marché mondial. Quelques chiffres, ils pèsent combien de salariés, combien de milliards de paquets de cigarettes vendus?
Alors, dans le monde, c'est à peu près 150 milliards de paquets de cigarettes vendus par an. En France, c'est à peu près 5000 paquets à la minute, si je me souviens bien. Mm-hmm. C'est énorme. Ils se fument une cigarette toutes les deux secondes dans le monde.
C'est gigantesque.
En gros, c'est gigantesque. C'est un produit qui ne coûte quasiment rien à fabriquer et qui rapporte énormément d'argent.
Une marge, est-ce qu'on évalue la marge sur un paquet
la
de
marge,
cigarettes?
En France, je vais expliquer pourquoi dans quelques minutes, mais en France, la marge est en gros de 50%. Ça signifie que c'est une industrie qui est plus rentable que le luxe, qui est plus rentable que l'aéronautique, qui est plus rentable que les spiritueux. C'est l'industrie la plus rentable du monde.
Mmh. Du coup, c'est la guerre entre les quatre multinationales du tabac?
C'est la guerre sur les marchés, pour conquérir les marchés, avec presque qu'une seule exception, c'est la France, où en France, ils se sont entendus pour se partager le marché.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que depuis les années 70, la France, comme beaucoup d'autres pays, a multiplié les réglementations anti-tabac. Donc le nombre de fumeurs diminue. Mm-hmm. Et confronté à cette situation, les big tobacco, les big four, se sont dit qu'est-ce qu'on fait? Et ils ont pris une décision très simple, avec la complicité des pouvoirs publics, c'est de dire au fur et à mesure que les ventes de cigarettes baissent, on va tout doucement augmenter les prix. Ce qui fait que ça maintient notre marge. Pour ça, il faut une entente sur les prix. Donc depuis,
ils n'ont pas été condamnés pour ça?
Non, personne n'a jamais attaqué. Donc depuis 2004, personne n'a jamais attaqué. Si, il y a quelques mois, le Comité national contre le tabagisme a effectivement introduit une procédure pour entendre sur les prix. Mmh. L'arnaque est très simple. En 2004, ils se sont mis d'accord avec les pouvoirs publics. Je rappelle que le tabac en France, c'est 15 milliards d'euros par an de taxes qui tombent dans les caisses de l'État. Donc l'État n'a objectivement aucun intérêt à ce que ce pactole gigantesque des taxes sur le tabac diminue. Et pour ça, comment on fait? Parce qu'il faut bien lutter contre le tabagisme, puisque c'est un vrai problème de santé publique. Mmh. Donc pour ça, comment on fait? Eh bien, au fur et à mesure que les gens baissent leur consommation, on augmente doucement les prix. Et donc, ça permet à l'État d'encaisser les taxes et ça permet au Big Tobacco d'encaisser les profits.
Mais alors, l'État se tire une balle dans le pied quand la ministre de la Santé, Marisol Touraine, fait adopter le 3 avril dernier le paquet de cigarettes neutres. D'ailleurs, il va ressembler à quoi, ce paquet ?
C'est un paquet qui devrait normalement être d'une vilaine couleur vert olivâtre, avec une immense photo. En général, on prend un goitre un peu sanguinolent, on prend un enfant qui a un masque d'oxygène sur la tête. Il n'y aura pas de couleur, tous les paquets de la même couleur, et simplement la marque, donc Marlboro ou Camel, etc., écrit en petites lettres noires au bas du paquet.
Alors ça, c'est un coup dur pour l'État et pour ses multinationales.
Pas vraiment.
Pourquoi ?
Pas vraiment, pour une raison très simple, c'est que quand vous êtes fumeur, il y a à peu près aujourd'hui en France quelque chose comme 13 millions de fumeurs, quand vous êtes fumeur, c'est un produit qui est addictif. Donc, vous allez dans le bureau de tabac, vous demandez votre paquet de cigarettes, qu'il soit vert, rouge ou bleu, peu importe, vous êtes addict. La nicotine est un produit extrêmement addictif.
On n'est pas addict au look de la boîte, enfin du paquet de cigarettes.
Le look est important pour différencier les marques entre elles, et notamment pour attirer les jeunes. Mais quand vous êtes fumeur, peu importe la couleur du paquet de cigarettes. Vous demandez votre dose de tabac quotidienne. Et donc, le paquet neutre, c'est important parce que ça dissuade les gens qui ne sont pas fumeurs de rentrer dans le tabagisme, et en particulier les jeunes. Par contre, pour les fumeurs, ça ne change rien.
Marc Lomadi, vous publiez dans le Parisien Magazine de ce week-end les meilleures feuilles de votre livre « Comment la mafia du tabac nous manipule », publié aux éditions Flammarion. Voilà, je n'arrivais pas à le lire. Et dans ces bonnes feuilles qu'on découvre dans le Parisien Magazine, il y a l'histoire de ces quatre repentis de l'industrie du tabac. Qui sont-ils ?
Alors, d'abord, ce sont des gens qui sont anonymes, qui parlent anonymement, que j'ai rencontrés, qui ont accepté de me parler très longuement, à condition qu'on ne puisse pas les reconnaître.
Parce qu'ils ont peur ?
Vous ne pouvez pas répondre à la question, qui sont-ils ?
Des gens qui ont peur, apparemment.
Oui, l'industrie du tabac est une industrie. Ce sont des vrais méchants. C'est un peu comme les labos ou les pétroliers ou les banques. On n'est pas dans un monde de bisounours.
Donc je vous pose une autre question. Qu'est-ce qu'ils dénoncent ?
Alors, d'abord, qui sont-ils ? Si je vais quand même vous dire qu'ils sont. Ce sont d'anciens hauts cadres de l'industrie du tabac qui ont travaillé dans les filiales françaises des multinationales du tabac et qui ont occupé des postes à la fois dans les relations publiques, dans les directions marketing et dans les directions financière. Donc ils connaissent cette industrie sur le bout des doigts, ils connaissent tous les trucs et toutes les combines.
Alors vous racontez l'histoire de Pierre notamment, que vous avez rencontré. C'est qui Pierre ?
Alors Pierre, c'est un ancien conseiller ministériel d'un gouvernement pas très ancien, qui a accepté à un moment de quitter la vie politique pour rejoindre le privé. Pour une raison simple, c'est que dans le privé, on est beaucoup mieux payé.
Il a été approché, en fait, c'est ça, par un dirigeant d'une multinationale de tabac ?
Il a été approché. Les quatre multinationales du tabac, dans tous les pays où elles sont implantées, ce qu'ils souhaitent, c'est avoir dans leur rang des gens qui viennent des milieux politiques. Parce que la politique, ce sont les lois, ce sont les réglementations et c'est la fiscalité. Donc ce qu'ils veulent, c'est avoir des gens qui connaissent parfaitement Matignon, parfaitement l'Élysée, parfaitement les circuits du pouvoir, parfaitement les députés. Et donc, ils vont chercher des gens qui, par exemple, ont travaillé à Bercy, à la direction du Trésor, ont travaillé à Matignon auprès des premiers ministres, et qui connaissent, c'est ce que j'appelle dans le livre, la mafia. C'est pour ça que ce livre s'intitule « Comment la mafia du tabac nous manipule », c'est que c'est une mafia hexagonale. Et quand les multinationales, plutôt anglo-saxonnes, sont arrivées en France, elles ont découvert cette particularité française qui est cette espèce de nomenclatura de gens qui détiennent tous les pouvoirs à la fois politiques et économiques, puisqu'on les retrouve, vous passez à Bercy, ensuite vous vous retrouvez dans une banque, vous passez à Matignon, vous vous retrouvez à des postes très importants dans le privé. Donc ce sont des gens qui connaissent tout le monde, qui se connaissent tous, qui peuvent se contacter extrêmement facilement.
C'est une mafia transversale aussi, alors.
Alors c'est ce qu'on appelle les revolving doors, c'est on passe du privé au public, du public au privé, etc. Et ça, pour elles ont fait leur miel, parce que à coup de salaire très confortable.
Combien il gagne ce Pierre, par exemple, ancien directeur d'un ministre ?
La rémunération dans le privé, c'est toujours en deux parties. Il y a un salaire fixe qui est très confortable, de l'ordre de 7, 8, 10 000 euros par mois, plus une participation aux bénéfices.
Et là, qui est très très confortable.
Et les bénéfices sont colossaux.
Bon, ben on va continuer de raconter.
Quadruple le salaire.
Voilà, on a bien compris pourquoi il a quitté la fonction publique pour travailler chez un géant du tabac. Et on va vous raconter comment ce Pierre, devenu lobbyiste pour le tabac, travaille. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
Comment la mafia du tabac nous manipule, c'est le titre de l'enquête de notre invité Marc Lomazzi, rédacteur en chef adjoint au Parisien. Ce livre sort le 13 mai aux éditions Flammarion. Et on le disait, vous avez rencontré quatre repentis de cette industrie. On a fait connaissance avec Pierre, ancien directeur de cabinet d'un ministre d'un gouvernement de droite, on va dire ça comme ça. Il est devenu lobbyiste pour un cigarettier. Quelle est sa mission première ? C'est quoi ? Faire l'interface avec les pouvoirs publics, avec ses anciens contacts, avec
sa mission première, c'est qu'il n'y ait pas de réglementation anti-tabac en France.
Mais il y en a.
Ou s'il y en a une, oui, d'en minimiser au maximum les effets, ou de faire qu'elle ne soit pas appliquée. Donc d'abord, c'est de faire que la loi ne soit pas appliquée. C'est sa première mission. La deuxième mission, c'est qu'il n'y ait pas d'augmentation des taxes sur le tabac. Et sa troisième mission, c'est de faire ce qu'on appelle du trafic d'influence auprès des pouvoirs politiques.
C'est-à-dire, ça veut dire quoi, trafic d'influence,
c'est-à-dire qu'il utilise son réseau pour inviter des parlementaires, des conseillers ministériels, ses anciens collègues, à des soirées, à des avant-premières, à des voyages, etc. De manière à ce que le jour où à l'Assemblée arrive le projet de loi santé, il est dans sa poche un certain nombre de parlementaires qui vont monter au créneau.
Mais alors justement, on parlait du paquet neutre là, qui a été lancé par la ministre de la Santé. Bah, ils se sont, plantés, l'industrie du tabac, puisqu'il existe ce paquet neutre.
Alors, le paquet neutre existe. C'est une mesure qui pourrait dissuader un certain nombre de gens, et en particulier les jeunes, de rentrer dans le tabac. Mmh. Mais comme toujours, l'industrie du tabac a dealé. C'est-à-dire qu'ils ont dit, OK pour le paquet neutre, mais en échange, vous allez nous faire qu'il n'y ait pas d'augmentation des prix du tabac au 1er janvier 2015, qui était prévu. Donc Marisol Touraine, par exemple, quand elle a présenté sa mesure, elle a dit, il y aura le paquet neutre, il y aura un certain nombre de mesures dans mon plan de lutte contre le tabagisme, et il y aura évidemment une augmentation des prix. L'arbitrage lui a été défavorable. Mmh. C'est-à-dire que l'affaire est remontée jusqu'à l'Élysée, et en cours de route, l'Élysée a changé d'avis.
Donc c'est peut-être l'action de Pierre, qui a œuvré depuis 2004, c'est
ou
ça
d'autres.
Oui, il y a eu l'action des lobbyistes du tabac, Pierre et les autres. Il y a eu l'action des buralistes. Hein. Les buralistes qui voyaient, au fur et à mesure que les prix montaient, les ventes s'effondraient. Et donc, ils ont manifesté, beaucoup, dans les rues. Ils ont été voir beaucoup d'élus, notamment des élus des régions frontalières, puisque les gens, dès que les prix augmentent en France, vont aller s'approvisionner à l'étranger. Et donc, il y a énormément d'élus qui sont montés au créneau. Et ce que je raconte dans le livre, c'est une hypothèse. C'est que si François Hollande, qui était plutôt en faveur du paquet neutre au début et de l'augmentation des prix, a changé d'avis, c'est peut-être parce qu'il y a vu un intérêt politique. C'est-à-dire que le tabac, aujourd'hui, ça frappe essentiellement les couches populaires. Ce sont dans les couches populaires qu'on fume le plus. Les cadres sont plus attachés à leur santé, font du jogging, on s'arrête de fumer très rapidement, etc. Mmh. Les couches populaires, on fume beaucoup. Et donc, ne pas augmenter les prix du tabac, en plein milieu de l'affaire descendant, c'était envoyer un signe à l'opinion publique, vous voyez, je ne tape pas sur les couches populaires.
Et il y a des lobbyistes qui font passer ce message-là, par exemple.
Bien sûr. Il faut pas oublier que quand vous êtes député ou sénateur et que vous retournez dans votre circonscription, vos réunions publiques, vous les faites le plus souvent dans des cafés tabac. Et donc vous rencontrez des gens en plein milieu d'un tabac. Et les gens vous disent, n'augmentez pas, s'il vous plaît, on a déjà l'augmentation des prix de l'essence, on a l'augmentation du coût de la vie, n'augmentez pas les cigarettes. Mmh. Et donc ils remontent, ils transmettent le message à Paris, et c'est remonté visiblement grâce à l'entremise des lobbyistes jusqu'à l'Élysée qui a décidé de ne pas augmenter les prix du tabac.
Marc Lomazzi, pour écrire votre enquête, comment la mafia du tabac nous manipule, aux éditions Flammarion, vous avez rencontré ce fameux Pierre, c'est un repenti, ça veut dire qu'il a arrêté. Pourquoi il a arrêté d'être lobbyiste pour un cigarettier ?
Vous êtes dans une industrie qui fait en France 78 000 morts par an. C'est une industrie où à partir du moment où vous êtes addict, c'est très difficile de s'en sortir. C'est une industrie où on ne respecte aucune loi. On fait les bénéfices dont je parlais tout à l'heure, qui sont gigantesques en France, font l'objet de, on va dire, d'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que j'appelle un hold-up fiscal. Vous êtes dans une industrie qui ne respecte aucune loi. Au bout d'un moment, vous saturez. Vous avez envie de travailler dans une entreprise ou dans un secteur plus propre que ça. Et donc les gens
Et c'est facile d'en sortir ?
Certains, non, c'est pas facile parce que c'est très bien payé. Mais certains partent et ils se rendent compte en fait qu'ils ont vécu dans une bulle. C'est ce que j'explique dans un chapitre du livre, c'est que les gens qui travaillent dans l'industrie du tabac, ils sont managés, sont comme dans une secte. Ils finissent par croire à ce qu'ils disent, par exemple, que c'est pas vrai que le tabac tue. Si on en fume 5 par jour, c'est pas grave. C'est pas vrai que c'est addictif. On peut très bien s'en sortir si on le veut.
Ah, donc il n'y a pas de cynisme, il y a plutôt un angélisme.
Il y a beaucoup de cynisme et puis il y a un peu d'autoconviction pour se dire.
Oui, parce que sinon, bon, voilà, je travaille dans la glace.
Je travaille pas vraiment dans l'industrie la plus propre du monde, mais bon, c'est un peu comme si je travaillais chez. Pas cité de marque, mais chez un grand alcoolier, etc. Mmh. Et il y a une des cadres que j'ai rencontré qui m'a dit, moi j'ai décroché au moment où, à l'école de mon fils, on m'a demandé de dire pour qui je travaillais. Et je me suis aperçu que jamais j'avais osé écrire que je travaillais pour l'industrie du tabac. Et je me suis dit, il y a quand même un vrai problème. Et donc, elle a décidé d'arrêter. Voilà, ils ont tous décidé un jour ou l'autre d'arrêter face à la brutalité. C'est un monde très brutal aussi. Hein. C'est un monde extrêmement brutal. Et donc, ils en ont marre. Et ils s'en vont.
Marc Lomazzi, vous racontez aussi l'histoire de Vincent, autre repenti. Il a été vendeur pendant 25 ans pour un des géants du tabac. C'était quoi son quotidien ?
Alors lui, il fait partie de ces gens qui passent leur temps à démarcher les buralistes pour mettre en valeur les marques. C'est-à-dire qu'on est dans un pays un peu étrange où on vend, c'est tout à fait légal de vendre des cigarettes, mais vous n'avez pas le droit de faire de publicité, pas le droit de faire de promotion. Vous ne verrez jamais dans les magazines de la publicité pour le tabac, c'est complètement interdit. Et donc, qu'est-ce qui reste pour mettre en valeur ces produits ? Eh ben, il reste les buralistes. Et quand vous rentrez dans un bureau de tabac, vous avez une espèce de mur de paquets de cigarettes. Comment on fait pour se différencier ? Donc là, il y a un certain nombre de techniques qu'utilisent les gens comme Vincent. Et la technique la plus simple, c'est encore de verser un bakchich aux buralistes pour qu'ils mettent en valeur votre marque.
Donc les marques se battent entre elles.
Ah, c'est sûr.
Et les bakchiches, c'est combien, par exemple ?
Alors, les bakchiches, ça peut aller, quand on lance une nouvelle marque de cigarettes, on donne, les grands cigarettiers donnent jusqu'à 5 euros la cartouche. Hein. Ça peut aller jusqu'à 4 000, 6 000, 10 000 euros. Voilà.
Puis il y a tout un système qui est mis en place. Il y a les bakchiches, mais aussi un système de gratification des débitants de tabac. J'ai lu ça dans votre enquête aux éditions Flammarion.
Les gros débitants de tabac, ceux qui sont vraiment, qui font des gros débits et qui intéressent en particulier les cigarettiers touchent une première commission entre guillemets au moment où ils commandent les cigarettes et ils touchent une deuxième commission au moment où ils vendent les cigarettes. Donc les cigarettiers vérifient bien qu'on a bien vendu leur marque et ils sont commissionnés là-dessus. Ils sont pas les seuls d'ailleurs, hein. Il y a aussi les boîtes de nuit, les bars, etc. qui touchent aussi de l'argent de la part des cigarettiers pour mettre en valeur leur marque.
Il y a 27 000, c'est ça, buralistes en France, Marc Lomazzi. Ça veut dire qu'ils font pour la plupart tout ça.
C'est les gros, ça touche les très gros buralistes, hein. Ceux qui ont vraiment de très gros débuts, ça touche à peu près la moitié des buralistes.
Mais les bakchiches et enfin tout ce système en fait mafieux. Vous pensez que la plupart des buralistes en France, ils sont confrontés ?
Non, ça concerne vraiment les très gros buralistes qui font des très gros débits, hein, dans les grandes villes, bien positionnés dans les villes, où il faut absolument pour les cigarettiers, parce que c'est important pour eux, être très bien référencés dans ces bureaux de tabac-là. Et alors ce qui est particulier dans cette profession, c'est que les buralistes, vendant un produit qui est taxé à 80%, sont en fait des préposés du fisc. Or, ce que je décris moi, c'est une vaste opération de fraude fiscale. Donc il y a un véritable problème aujourd'hui, c'est que en échange du monopole dont bénéficient les buralistes en France, ils sont censés respecter parfaitement la loi, en particulier ils n'ont pas le droit de toucher de rémunération. Or là, ce que je décris, ce que décrit les cadres que j'ai rencontrés, c'est effectivement un système à grande échelle de pot de vin.
Et on se demande du coup ce que font le fisc, les douanes par exemple, les autorités françaises. On va répondre à cette question dans un instant. C'est l'un des aspects les plus intéressants de votre livre et de l'enquête qui est publiée dans le Parisien Magazine de ce week-end. Restez avec nous.
RTL.
Vous écoutez RTL.
Première radio de France.
Suite sur clubrtl.fr.
Devenez gratuitement membre du Club RTL et bénéficiez d'événements exclusifs partout en France, de privilèges inédits et gagnez de nombreux cadeaux RTL.
Vous n'êtes pas encore membre du Club RTL ?
Alors rendez-vous tout de suite sur clubrtl.fr.
RTL,
toujours avec vous. RTL.
RTL.
dit, attendez les gars, attendez, comment j'ai fait pour commencer la cigarette? Il y a un mot, la volonté. Tu veux commencer la cigarette? Si t'es un homme, tu te réveilles un matin, tu dis je commence et tu commences.
Cigarette et whisky et petit pépé, c'est ça la vie, mais c'est bon de les aimer.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Quatre géants du tabac se disputent un marché mondial de 50 milliards d'euros par an en France à ce prix. Tous les coûts sont permis et ce sont les coulisses sulfureuses, ces coulisses sulfureuses que nous fait découvrir Marc Lomazzi, qui est rédacteur en chef adjoint du Parisien et qui publie « Comment la mafia du tabac nous manipule ». C'est aux éditions Flammarion. On était avec Vincent, que vous avez rencontré. C'est un des repentis de cette industrie du tabac. Il vous raconte tout un système de rémunération. Alors vous appelez ça un système de rémunération à triple détente. Mmh. Ça veut dire quoi? Qu'il y a trois niveaux, c'est en fonction de la grosseur, oui, du, je sais pas, du
de la commande, des
de
ventes,
la commande, du, voilà, du bureau de tabac.
Première
de...
commission quand vous commandez les cigarettes. Déjà là, vous touchez une commission. Deuxième commission quand vous la vendez. Et puis ensuite, quand on lance, qu'on fait des opérations de promotion, vous inscrivez dans cette, c'est une espèce de challenge commercial, et là, vous touchez également de l'argent. Donc les buralistes touchent de l'argent, effectivement, à trois niveaux, et ça peut rapporter très très gros pour un buraliste qui a un très gros débit. Ouais.
C'est légal ou pas?
Ah non, c'est parfaitement illégal. C'est de la fraude, ce sont des revenus non déclarés. D'abord, un, les buralistes n'ont pas le droit de toucher de l'argent autre que le pourcentage qu'il leur a alloué sur la vente des cigarettes. Ils ont le monopole de la distribution. En échange de ce monopole, ils ont 8%. Chaque paquet qu'ils vendent, ils ont 8%. L'État a 80%, eux ont 8%, et les fabricants ont 11%. Mmh. On se partage le prix de la cigarette. Mais en dehors de ça, ils n'ont le droit de percevoir de l'argent de personne. Ce sont des préposés du fisc. Or, ces préposés du fisc font de la fraude fiscale, c'est évidemment non déclaré, et ils font également du blanchiment de fraude fiscale.
Mmh. Et quand vous interrogez, par exemple, la Direction générale des douanes et des droits indirects, c'est le gendarme du secteur en quelque sorte, comment elle réagit?
Alors, ce que disent les douanes, qui sont l'autorité de tutelle des buralistes, leur réponse est de dire ça n'est pas notre travail.
Pardon?
Ça n'est pas notre travail.
Alors, nous, on est là pour lutter. Le travail de qui alors?
Nous, on est là pour lutter contre la contrebande, donc eux s'attaquent au grand réseau mafieux de contrebande et contrefaçon. C'est le travail des douaniers. C'est le travail de la DGCCRF, hein, l'autorité de la concurrence, et c'est le travail des agents du fisc. Mais ce travail-là n'est pas fait. Il y a un rapport de la Cour des comptes récent qui disait qu'un buraliste a en gros une chance par siècle d'être contrôlé. Donc ils ne sont pas contrôlés.
Et la Confédération des buralistes, j'imagine que ça existe, qu'est-ce qu'elle répond à ces accusations?
Ah, elle tombe des nues. Mais comment mais c'est impossible. Enfin, vous plaisantez. Si jamais ça se savait, ça serait un scandale immense. Non. Le patron de la Confédération que j'ai rencontré m'a dit « Ça fait 30 ans que je suis buraliste, je n'ai jamais vu ça. Ça n'existe pas. »
Il n'a pas encore lu votre livre alors qu'il sort le 13 mai, ouais. Marc Lomazzi,
non.
Ça va
Est-ce
faire...
Est-ce que j'ai rencontré un de ses vice-présidents qui lui me dit « Mais ça n'existe absolument pas, ce truc. » Et d'ailleurs, moi j'ai vu des collègues se faire avoir par des cigarettiers parce qu'ils faisaient rentrer des paquets de des cartons de cigarettes pour avoir la commission. Enfin non, je veux dire la commission, il n'y a pas de commission. Si, vous venez de dire qu'il y a une commission. Donc le type, au bout de 10 minutes, il m'explique le système, quoi. Donc voilà, c'est un système que tout le monde connaît. Les douanes disent, nous, on n'a pas les effectifs. On ne peut pas mettre un douanier derrière chaque buraliste. Ils sont 30 000 en France, on ne va pas mettre un douanier. On se concentre dans les grands ports, là où arrivent par conteneur entier des cigarettes de contrefaçon ou de contrebande. Ça, oui, ça, c'est notre travail.
Mais pourquoi le fisc ne le fait pas? Parce que ce que vous décriviez tout à l'heure, il y a le travail des lobbyistes qui fait qu'au plus haut niveau de l'État, on se dit ne cassons pas la tirelire, c'est ça?
Il y a deux raisons pour lesquelles on n'embête pas les buralistes. La première, c'est qu'il y a un système d'entente sur les prix. Ce système d'entente sur les prix, qui a été mis en place depuis 2004 avec la complicité de Bercy, est contrôlé par les douanes. Ce sont les douanes qui fixent les prix du tabac en France et qui contrôlent que l'entente fonctionne. Et cette entente permet... il y a 400 marques, sous-marques de cigarettes en France. Quand vous regardez les arrêtés d'augmentation des prix puisque c'est un produit qui est taxé, donc c'est l'État qui fixe le niveau des taxes, et à partir de ce niveau de taxes, on détermine un prix. Ce prix augmente tous les ans de la même manière pour tout le monde. Donc c'est une entente. Donc il y a des économistes qui ont dénoncé ça, le Comité national contre le tabagisme dénonce cette entente. Cette entente, pour qu'elle fonctionne, elle est sous la surveillance des douanes. Donc c'est pas les douanes qui vont aller embêter les buralistes.
Alors moi j'aime bien, ce que j'ai bien aimé dans votre enquête, Marc Lomazzi, c'est aussi de rentrer comme ça dans ces civettes et ces bureaux de tabac dans les villes et villages français. Et on apprend par exemple que le placement du produit dans le bureau de tabac est capital et que même les cigarettiers ont mené des études pour savoir où se portait le regard des consommateurs. C'est quoi la réponse à ces études?
Alors c'est ce qu'on appelle du eye screening, c'est-à-dire que on a fait des études pour voir où se portait l'œil quand on rentre dans un bureau de tabac. Et il y a deux endroits stratégiques. Le premier, c'est au-dessus de l'épaule, droite ou gauche, donc on est droitier ou gaucher du buraliste. Donc il faut que votre paquet de cigarettes soit là. Donc on vient et on dit, voilà, je veux que mon paquet de cigarettes soit là.
Ça se négocie avec des sous, j'imagine.
Et ça, on paye. Et ça, on paye. Et la deuxième chose, c'est le 1 mètre carré de comptoir qui est devant le buraliste. Parce que les gens, ils arrivent, ils regardent en haut et ils baissent les yeux. Et donc, vous avez un présentoir avec des cigarettes. Les cigarettes qui sont là, on a payé pour être là. Et on a payé très cher pour être là.
Marc Lomazzi, votre livre sort dans quelques jours. J'imagine qu'il a été relu par des avocats.
Bien sûr.
Vous craignez des procès?
Bien sûr.
Parce que là, vous, depuis quelques minutes, vous portez des accusations quand même graves.
Mm-hmm. Alors d'abord, il y a eu énormément de procès intentés à l'industrie du tabac pour non-respect de la législation. Mm-hmm. Donc c'est une donnée constante de l'industrie du tabac, quasiment depuis sa naissance. Le fait de ne pas respecter la loi est congénital à l'industrie du tabac pour une raison simple, c'est que quand c'est arrivé à l'échelle industrielle aux États-Unis, le tabac, immédiatement, l'administration qui s'occupe des narcotiques aux États-Unis avait considéré que c'était un narcotique. Et donc, il a fallu faire du lobbying de manière extrêmement intensive pour sortir le tabac des narcotiques, qui n'y est toujours pas d'ailleurs aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est congénital. Ils ne respectent pas la loi. Ils n'ont jamais respecté la loi. On a découvert au moment de la loi Veil, puis de la loi Evin, des plans de fraude, quand il y a eu des enquêtes, des plans de fraude massives. Donc première chose, ils n'ont jamais respecté la loi. Donc c'est pas une surprise de découvrir qu'ils ne respectent pas la loi non plus aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que il y a un certain nombre d'associations de lutte contre le tabac qui ont déjà alerté sur ces pratiques. La Cour des comptes elle-même a dénoncé le fait que si les politiques de lutte contre le tabagisme en France ont tellement de mal à être appliquées, c'est parce que il y a des intérêts financiers tels en jeu que effectivement il y a une pression économique terrible. Donc ce que je raconte, l'intérêt de ce que je raconte, c'est qu'on rentre dans le détail comment ça se passe réellement, mais le fait qu'ils ne respectent pas la loi, voilà, c'est pas une surprise.
J'entends ça, mais le point sensible de votre livre publié chez Flammarion et de les meilleures feuilles sont dans le Parisien Magazine, je le rappelle. C'est quand même le rôle des buralistes. Alors vous nous avez dit les gros bureaux de tabac sont concernés, tout le monde n'est pas concerné, là aussi vous êtes peut-être dans une prudence juridique, je ne sais pas, mais là vous risquez peut-être un procès parce que les buralistes, vous les accusez de corruption.
Alors c'est un système de bakchich qui est décrit. J'ai pris la précaution quand même de faire relire le chapitre sur les buralistes à un cadre qui travaille toujours dans l'industrie du tabac aujourd'hui. Qui m'a dit voilà, rien n'a changé. Ça se passe toujours comme ça aujourd'hui. La seule différence par rapport au passé, c'est que auparavant, les buralistes étaient rémunérés sous forme de chèques cadeaux.
C'était légal ça, un chèque cadeau? Non plus.
Non, ils n'ont pas le droit de percevoir de rémunération. Donc c'était parfaitement illégal, mais les buralistes ont dit oui, mais les chèques cadeaux, c'est compliqué, c'est pas pratique. Nous, ce qu'on voudrait, c'est du cash. Et donc, ils ont passé à un système beaucoup plus perfectionné, qui est un système de cartes de crédit prépayées. Donc on leur donne des cartes de crédit prépayé, et au fur et à mesure des commissions, on crédite la carte.
On va être prudent, nous aussi, on va dire certains buralistes.
Certains buralistes qui ont accepté ce système-là reçoivent.
Un vendeur, par exemple, va chez un buraliste, il lui propose cette transaction, le buraliste accepte, et là, on lui ouvre un compte, c'est ça quasiment?
Voilà, exactement.
C'est choquant?
Ah oui, moi je trouve que, et c'est pour ça que, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre, c'est que. Quand je me suis entretenu au départ avec les cadres ces ex-cadres du tabac, je m'étais dit, ils vont me raconter des choses qu'on soupçonne tous un petit peu. Mais devant l'ampleur de ce qu'ils m'ont raconté, je me suis dit, ça vaut vraiment un bouquin. C'est-à-dire que c'est tellement énorme. Il y a des aspects plus sympathiques de la profession de lobbyiste quand ils vous emmènent au Stade de France ou voir des concerts de Madonna, c'est sympathique, tout le monde fait ça. L'industrie automobile fait ça, les labos pharmaceutiques font ça, tout le monde fait ça. Quand on fait du trafic d'influence, quand on fait de la manipulation de l'opinion publique, quand on fait de l'évasion fiscale à grande échelle, quand on fait de la corruption, là ça devient vraiment un scandale. Et le scandale, il y a un autre scandale derrière le scandale, c'est que l'État est très ennuyé. Parce qu'encore une fois, c'est 15 milliards de recettes fiscales par an. Et donc, l'État n'a pas tellement envie qu'on mette en permanence ce sujet sur la table.
Oui, bien sûr. Marc Lomazzi, vous nous avez dit que ces témoins, ces repentis au cadre de l'industrie du tabac, vous les protégez, vous protégez leur anonymat. Malgré tout, est-ce que vous craignez des représailles pour eux et éventuellement des conséquences, des pressions peut-être qui ont déjà commencé pour vous ?
Non, pour l'instant, il n'y a pas eu de pression. Évidemment, je pense que la Confédération des polaristes que vous avez citée va réagir extrêmement violemment à ces accusations, va se défendre. Voilà, le travail du journaliste, c'est de faire un travail qui est motivé par la volonté de dire la vérité, sans volonté de nuire particulièrement à quelqu'un.
De faire bouger les choses,
de mettre sur la place publique un certain nombre de choses. On parle quand même d'une industrie qui fait 78 000 morts par an. Hein. C'est beaucoup plus que les accidents de la route, beaucoup plus que l'alcool. Donc c'est un vrai sujet de santé publique. Les ministres de la Santé que j'ai interrogés, ou leur entourage, Roselyne Bachelot, Xavier Bertrand, ont dit toute la difficulté qu'ils avaient face à ce lobbying extrêmement intense, à la passivité de Bercy, parfois à la lâcheté des gouvernements sur ces questions-là. Donc c'est des vrais sujets. À partir du moment où l'enquête est faite de manière sérieuse, où j'ai donné la parole aussi aux députés que j'accusais dans le livre d'être des porte-voix de l'industrie du tabac, je leur ai donné la parole. Donc voilà, c'est fait de manière sérieuse, les témoignages sont sérieux, je certifie évidemment l'authenticité de ces gens. Donc évidemment, il y aura sans doute des réactions très vives. Je pense que d'un point de vue... aucun juge ne condamnera un journaliste pour avoir mis sur la place publique des choses qui sont aussi avérées que celles-là.
Merci Marc Lomazzi.
Merci
beaucoup.
Publié
Comment la mafia du tabac nous manipule, des cadres repentis brise l'omerta, c'est aux éditions Flammarion et en
puis,
kiosque.
C'est à lire aussi dans le Parisien Magazine, les bonnes feuilles, comme on dit, de là aussi un jeu de mots avec le tabac, les bonnes feuilles dans le Parisien Magazine, dans les coulisses de la cigarette, c'est le titre de cet article.
Vous écoutez RTL.